Nous voulons entendre la voix de notre Seigneur et je vous invite à l'entendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, dans les versets 14 à 30. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partait en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre, le cacha et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit en rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit : Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit : Bien, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ce talent dans la terre et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez un banquier. Et dès mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Jusqu'ici notre lecture. Cette parabole vient juste après celle dite par Jésus quelques versets auparavant, la parabole des vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et elle vient aussi avant l'enseignement de Jésus sur le jugement dernier. La parabole des 10 vierges montre l'importance d'attendre sans relâche le retour du maître et d'être toujours prêt à le rencontrer à n'importe quel moment, même au moment où on s'attend le moins. Dans notre parabole, Jésus dit à ses disciples comment attendre le retour du maître. Il faut développer les talents que le Seigneur leur a donnés en attendant le retour du maître. En d'autres termes, les disciples ne doivent pas attendre le retour de leur maître en tournant les pouces, mais en développant les talents, les richesses que leur maître leur a laissées. Nous sommes, en tant que disciples du Seigneur, appelés à développer les biens que le Seigneur nous confie, en nous engageant dans des activités responsables, pour produire des résultats que le maître peut voir, que le maître peut approuver dès son arrivée. Car la période d'attente n'est pas une période vide, n'est pas un délai insignifiant, c'est une période d'opportunité pour faire un bon usage des talents que le maître a remis entre nos mains. Ceux qui ne mettent pas leurs talents au service de leur maître risquent de se voir traités de serviteurs paresseux, inutiles, et se voir finalement dépouillés des dons qu'ils avaient reçus du Christ. Pour illustrer la richesse, le bien que Dieu accorde à chacun de ses serviteurs, Jésus donne cette parabole que nous venons de lire. Trois serviteurs qui ont reçu 5 talents pour le premier, 3 talents pour le deuxième et 1 talent pour le dernier, chacun selon ses capacités. Un talent dans l'Antiquité est une unité de poids qui pèse entre 20 à 25 kilos. Par exemple, chez les Athéniens, le talent pesait environ 27 kilos. Quelle est la valeur de ces talents confiés aux serviteurs? Combien a reçu chacun de ces serviteurs? Le talent dont il est question ici valait entre 6 000 et 10 000 deniers selon le métal utilisé. Et un denier était un salaire journalier d'un ouvrier moyen. Si on veut actualiser cette somme, à notre temps, cela correspondrait à une somme de 54 000 euros à 60 000 euros pour chaque talent sur la base du SMIC, par exemple. En résumé, le premier qui a reçu 5 talents a reçu finalement l'équivalent de 270 000 euros, entre 270 000 euros et 300 000 euros. Et le deuxième, entre 108 000 euros et 120 000 euros. Et le troisième, le dernier, entre 54 000 euros et 60 000 euros. Donc, il est question, dans notre parabole, des sommes quand même considérables. Le fait de confier tant de biens à ses serviteurs, cela montre la confiance que le maître place dans ses serviteurs. C'est une grande confiance, c'est une confiance presque sans limite. À vrai dire, cette pratique se faisait régulièrement au temps dans l'Antiquité. Lorsque les maîtres partaient en voyage, ils confiaient la gestion de leurs biens à leurs serviteurs, avec certainement un pourcentage des bénéfices accordés lors de leur retour, du retour du maître. Et en tout cas, il s'agit bien ici des biens du maître qui sont confiés aux serviteurs dans le but d'être développés et d'être fructifiés. Le texte de notre parabole ne dit rien sur les instructions, les recommandations éventuelles laissées par le maître. Et probablement, le maître n'a laissé aucune instruction à ses serviteurs, ce qui montre combien il a confiance en eux, combien il place sa confiance en eux. Le maître manifeste la même confiance en chacun de ses serviteurs, même s'ils n'ont pas tous reçu la même chose. Le premier 5 talents, le deuxième 3 talents et le dernier un seul. La différence entre les talents confiés ou remis à chacun ne s'explique pas par le degré de confiance que le maître a en chacun, mais par la capacité de chacun de ses serviteurs de porter la responsabilité de ses talents, la responsabilité qui lui a été confiée. Donc par cette différence, encore, le maître exprime aussi son souci de chacun, son respect des capacités individuelles et son adaptation aux besoins de chacun. Car il ne veut pas que cette responsabilité écrase ses serviteurs, il ne veut pas qu'elle soit pour eux une occasion de chute, mais au contraire, il veut qu'elle soit pour eux une occasion de service, une manière de contribuer à la gestion des biens de leur maître, une disposition donc qui leur permettra de participer à la réalisation des projets de leur maître. C'est donc avec une grande confiance que le maître confie ses biens à ses serviteurs. Nous aussi, nous bénéficions de la confiance de notre maître, le Seigneur Jésus, pour développer les talents qu'il nous confie. En effet, le Seigneur place sa confiance en nous pour prendre part activement à la réalisation de ses projets, de ses plans dans notre monde, pour accomplir sa volonté dans notre vie, autour de nous, là où il nous place. Le Seigneur nous fait tellement confiance qu'il n'a pas estimé utile de nous laisser des recettes à appliquer partout, mais il nous laisse la liberté et de bien entendre sa voix, de bien la discerner et d'entrer pleinement, librement dans ses plans pour nous, dans ses projets pour nous. C'est une belle confiance que le Seigneur place en nous, une confiance qui rassure et c'est une confiance qui propulse aussi de l'avant. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de quelqu'un qui vous confierait une responsabilité, mais il est tellement angoissé derrière vous que finalement vous allez certainement échouer dans cette responsabilité-là, parce qu'il n'a pas assez confiance en vous. Par contre, si quelqu'un a confiance en vous, lorsqu'il vous confie une responsabilité, sa confiance vous donne de l'assurance et vous pouvez avancer avec beaucoup de force et de courage. En tout cas, sachez que le Seigneur nous fait pleinement confiance dans le service qu'il nous confie. Donc nous pouvons avancer avec assurance et surtout, n'écoutons pas toutes ces voix discordantes qui ne s'alignent pas justement à la voix du Seigneur, à la voix de notre maître. Soyons donc rassurés de la confiance de notre Seigneur et avançons d'un pas bien décidé dans le service auquel il nous a appelés, dans les responsabilités qu'il nous confie et dans le développement des talents qu'il a mis en nous. Quant aux talents que le Seigneur mit entre nos mains, peuvent être divers et variés. J'aimerais juste évoquer deux, mais la liste peut être très longue. Le premier talent donné à tous les êtres humains, c'est la vie au quotidien. La vie avec toutes ses richesses, toutes les richesses qui vont avec, ne sont accordées par le Seigneur. Les ressources naturelles, spirituelles, le pain quotidien. En effet, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie est un don de Dieu. C'est lui qui la donne et c'est lui aussi qui la reprend. Toutes les bonnes choses, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles soient spectaculaires ou simples, régulières, sont un don de Dieu. Beaucoup de nos contemporains, surtout les jeunes, je suppose, surtout les jeunes cadres pour qui peut-être la vie est beaucoup plus facile, oublient que la santé, les forces, l'intelligence qu'ils ont, toutes les ressources dont ils disposent jour après jour est un don de Dieu. Chaque jour, chaque instant est un don de Dieu. Donc à chacun de prendre conscience de cette réalité-là et de rendre grâce à Dieu pour sa grande générosité. Le deuxième talent que j'aimerais évoquer ici et donner tout spécialement aux disciples de Christ, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur met un trésor énorme entre nos mains. Et c'est un trésor inestimable, un trésor qui dépasse toutes les richesses, tout ce que peut donner l'argent ou l'or. C'est le Seigneur lui-même qui dit « Recherchez mon enseignement plutôt que l'or et l'argent, choisissez la connaissance plutôt que l'or pur » dans Proverbe 8. Le psalmiste l'a bien saisi, l'a bien compris, il exprime en disant « Mieux vaut pour moi la loi du Seigneur, la loi de ta bouche, que 1000 objets d'or et d'argent. » Et nous, sommes-nous conscients de cette richesse, de cette fortune, de ce talent qui est la parole de Dieu? Sommes-nous conscients de ce talent, de cette richesse que Dieu a placée entre nos mains? Certains commentateurs voient même derrière cette parabole un reproche de Jésus visant les scribes qui n'ont pas su développer la loi de Dieu, qui se sont accaparés de la loi de Dieu. Donc c'est à nous de réaliser le privilège d'avoir la parole de Dieu entre nos mains et de rendre grâce au Seigneur pour ce don, ce talent bien précieux. Les deux premiers serviteurs sont conscients de la générosité de leur maître et ils se sont précipités pour développer ces talents. L'adverbe « aussitôt » dans le verset 16, ou juste avant, souligne l'empressement de ces deux serviteurs dont l'engagement a développé les talents que leur maître a remis entre leurs mains. Le texte ne précise pas comment ils ont fait, mais il précise que celui qui a reçu 5 talents en a gagné 5 autres, celui qui a reçu 2 en a gagné 2 autres. Et le verbe employé, c'est gagner, le verbe gagner, fait allusion à une activité commerciale. Donc, fort de la confiance de leur maître, les deux premiers serviteurs se sont lancés dans le développement des talents, des fortunes que leur maître leur a confiées. Et les résultats sont proportionnels. Chacun a doublé la somme qui lui a été confiée. Pour ces deux premiers serviteurs, la richesse n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre leur objectif, celui de fructifier le capital que leur maître leur a confié. À la surprise générale, cet objectif n'est pas celui du troisième serviteur, car celui-ci décide de ne pas fructifier ce capital, mais juste de le préserver. Et pour cela, il adopte une attitude très répandue de son temps, c'est-à-dire creuser un trou et cacher son talent pour le rendre tel quel lorsque le maître reviendra. Cacher son trésor dans un trou sous terre est l'un des moyens de préservation utilisé en Palestine du temps de Jésus. L'endroit le plus sûr pour garder son trésor, c'est de l'enfouir sous terre dans un endroit gardé secret. C'est ainsi, par exemple, que l'homme, d'une autre parabole racontée par Jésus, est tombé, entre guillemets, sur un trésor dans le champ de son maître. C'est Matthieu 13. Même dans une époque plus récente encore, il y a un rabbin qui notait que l'un des moyens les plus efficaces de garder son argent en Palestine, c'est de l'enfuir encore sous terre. Donc le troisième serviteur a choisi de suivre la voie, la pratique la plus sûre de son temps, faire un trou dans la terre et cacher son trésor. Mais en agissant ainsi, il se prive de la richesse de ce talent et il se comporte comme s'il n'en avait pas, car cette fortune ne lui a été d'aucune utilité. Ce qu'on peut noter, en tout cas dans cette histoire, c'est le fait qu'il n'y a pas d'échec. Chacun de ses serviteurs a décidé d'agir comme bon lui semble, mais aucun d'entre eux n'a été écrasé par la charge de son maître, ni mis en échec par la responsabilité qui lui a été confiée. Certes, le dernier serviteur a fait un choix autre que celui des deux premiers, mais il n'a pas été trouvé devant un mur sans savoir quoi faire, ou bien que faire. Le maître n'a pas exigé un rendement particulier, il n'a même pas donné des instructions particulières. Il y a une réelle liberté d'action qui est laissée à chacun. Cette liberté, le Seigneur nous la donne aussi à nous, ses enfants. Nous qui voulons mettre au profit les talents, les richesses qu'il nous confie au quotidien. Le Seigneur ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il n'exige pas un rendement irréalisable comme pourraient le faire certains patrons, en particulier en ce temps de crise. Non, le Seigneur tient compte de nos capacités, de nos limites, de ce que nous sommes. Par contre, ce qui ressort très clairement dans cette histoire, en tout cas de l'attitude des deux premiers serviteurs, c'est le fait que les deux se sont investis totalement, même si le rendement est différent. Cela me fait penser que nous sommes tous invités à nous investir, à nous engager totalement dans le service du Seigneur, mais nous n'avons pas à comparer le rendement des uns et des autres. Ceux d'entre nous, bien équipés, qui ont reçu beaucoup de talents, apportent beaucoup à l'Église, au corps de Christ. Mais ceux qui sont moyennement équipés feront aussi un rendement moyen. Le plus important, c'est d'aller au maximum, aussi loin que possible, dans la responsabilité qui nous a été confiée. À titre personnel, à vrai dire, je fais une confidence, mais j'espère que je ne le regretterai pas un jour, je préfère quelqu'un qui a peu de capacité, mais qui met le maximum en œuvre, que quelqu'un qui a beaucoup de capacité, mais qui met très peu en œuvre. Pour une simple raison, parce que je crois que celui qui met le peu de talent, le peu de capacité qu'il a mis en œuvre, le Seigneur lui confiera des grandes choses, d'autres choses, lui donnera d'autres talents, et de cette manière, il recevra davantage de talents, de dons de la part du Seigneur. Et ainsi de suite, le Seigneur lui accordera davantage de dons pour la gloire, pour les fructifier, et pour la gloire de son maître, et aussi pour le bien de son Église, de l'Église du Seigneur. Les dons et les talents, c'est le Seigneur qui les donne à qui il veut et comme il veut. Ces richesses, de quel ordre que ce soit, nous viennent du Père des Lumières, comme dit l'apôtre Jacques, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et comme nos dons, nos talents nous sont donnés par le Seigneur pour l'utilité commune, donc je ne peux que nous encourager à aller aussi loin que nous pouvons dans le développement de ces ressources, dans le développement de ces ressources, qu'elles soient des ressources spirituelles, c'est-à-dire pour l'étude de la parole de Dieu, pour l'intercession, pour prier les uns pour les autres, pour des temps d'encouragement, etc. Ou bien, sur le plan matériel aussi, dans l'investissement dans la vie de l'Église, pour la mission, pour le témoignage ou bien pour le soutien des frères et sœurs dans le besoin, et ainsi de suite. Que le Seigneur nous donne la grâce, donc, d'aller aussi loin que nous pouvons dans l'investissement et dans la fructification des richesses qu'il place entre nos mains. En s'investissant dans le service du Seigneur, nous entendrons ces paroles fortes et encourageantes que le Seigneur a dites aux premiers disciples. Bien, bon et fidèle serviteur. Bien, le bien peut être compris ici ou peut être traduit même par bravo. Le Seigneur dira à ceux et celles qui ont su mettre en œuvre les talents que le Seigneur leur a confiés. Bravo, bon et fidèle serviteur. Les deux premiers serviteurs ont reçu les mêmes félicitations, les mêmes récompenses. Elles sont dites dans des expressions pareilles, identiques. Pour les deux serviteurs, d'abord les félicitations, bravo, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Le Seigneur les a estimés fidèles. Le maître lui-même donc les qualifie de bons et de fidèles. Et ce sont des termes très, très, très encourageants, très intéressants que le maître là utilise pour qualifier ou pour louer ses deux premiers serviteurs. Et on peut noter au passage que les sommes considérables dont il était question au début sont considérées ici par le maître comme peu de choses. Et pourtant, ce sont quand même des sommes considérables. C'est peu de choses par rapport à ce qu'il allait leur donner par la suite, à ce qu'il allait leur confier par la suite. Et puis, après les félicitations, il y a la récompense. La récompense, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voyant que ces deux serviteurs ont été fidèles en peu de choses, le maître leur renouvelle sa confiance en leur confiant davantage de choses pour qu'ils soient encore responsables sur beaucoup plus de choses. Et le maître invite ces deux serviteurs à entrer dans sa joie, à profiter avec lui des bienfaits réalisés et être au bénéfice de ce travail accompli. Donc, les serviteurs étaient les premiers bénéficiaires de leur travail. C'est avec donc cette expression dense et profonde que le maître exprime sa reconnaissance et sa confiance aux deux premiers serviteurs. Ceux d'entre nous qui auront l'intelligence et la sagesse de mettre au service les talents que le Seigneur leur a confiés se verront aussi, se verront félicités de la même manière lors du retour du Seigneur. En effet, ceux et celles qui travaillent, qui cultivent, qui développent les dons que le Seigneur nous a laissés, comme les deux premiers serviteurs, entendront le Seigneur leur dire, nous dire, le jour de son retour, bravo, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Certes, dès à présent, nous pouvons entendre aussi, d'une certaine manière, ces paroles du Seigneur lorsque nous sommes à son service, lorsque nous nous mettons tout en œuvre, nous mettons en œuvre ses talents. Dès à présent, nous pouvons expérimenter la joie du Seigneur, la joie du service du Seigneur. Mais la récompense ultime, la joie suprême, nous les recevrons lors de son retour, lorsqu'il reviendra et rendra à chacun selon la manière dont il a géré les dons qu'il lui a donnés, à commencer par le don de la vie. Et comme ce jour n'est pas encore arrivé, mettons-nous au service de notre Seigneur, à la bonne gestion de la vie, du temps, des journées qu'il place devant nous, si ce n'est pas déjà fait. Avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous pourrions développer les talents, les dons du Seigneur. Ces dons, ces talents se développent à force de l'exercice, à force de travail. C'est 1%, comme dirait Jean Wesley, d'inspiration, mais 99%, c'est de la transpiration. Il va falloir donc travailler pour développer ses talents. À chacun donc de mettre tout en œuvre pour fructifier ses talents, ses richesses que le Seigneur nous donne. Ne soyons pas comme ce dernier, comme le dernier serviteur, pris de paresse et préférant rendre les choses comme il les a reçues. Car autant que disciples de Christ, nous ne sommes pas seulement appelés à garder, à être clean, à être correct, notre casier judiciaire, si je peux dire les choses ainsi, je vierge, mais aussi nous sommes appelés à nous investir dans un service actif, dans un service responsable et fidèle qui donne des résultats. Le troisième serviteur trouve une excuse pour ne pas prendre ce risque, pour ne pas prendre ce risque d'investir le talent que le maître lui a confié. Voilà, voici ce qu'il lui dit. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, prends celui à toi. » Le serviteur se place sur le terrain de la justice et fait valoir qu'il rend le talent tel que son maître lui a laissé. Donc il n'a rien perdu. En d'autres termes, il rend la somme exacte que le maître lui a confiée. Et au passage, il accuse le maître d'être un homme dur et injuste. Donc, d'après son raisonnement, c'est la terreur et l'injustice du maître qui l'ont poussé à se comporter d'une manière juste, puisqu'il s'estime être juste dans sa manière d'agir. À cause de ces deux qualités, qu'on s'en passerait très volontiers, du maître, donc le serviteur a choisi la sécurité, une prudence, qui peut être d'ailleurs louée par certains. Mais son maître ne loue pas cette prudence. Bien au contraire, il la condamne. Et il condamne le serviteur en le traitant de serviteur mauvais et paresseux. Ensuite, le maître va se servir du raisonnement de ce serviteur, de ce dernier serviteur, pour lui montrer que même s'il voulait choisir la prudence, il aurait fallu mettre cet argent dans la banque. Comme cela, au moins, il n'y a plus de risque, il retrouvera sa somme et en plus, il récupérera les intérêts. Il faut remarquer que l'attitude du maître avec les deux premiers serviteurs, pour répondre au troisième, l'attitude du maître avec les deux premiers serviteurs ne relève aucune dureté et encore moins d'injustice chez ce maître. Il faut noter que le maître n'a même pas repris les talents qu'il a confiés, qui ont été fructifiés pour les deux premiers serviteurs. Puisque le verset 29 laisse entendre que le maître rajoute d'autres talents. Le troisième serviteur se trompe complètement de son maître. Il a une image fausse de son maître. Voilà ce qui a fait de lui un serviteur mauvais, paresseux et inutile. Serviteur mauvais, parce qu'il n'a pas compris le projet de son maître. Serviteur inutile, parce qu'il a bloqué une fortune d'argent, il l'a bloqué, qui pouvait être utilisé pour lui, pour les autres, pour aider les autres, mais il ne l'a pas utilisé. Il l'avait bloqué sans la développer, sans qu'elle serve à quiconque et en quoi que ce soit. Serviteur paresseux, comment comprendre paresseux lorsqu'on sait que le talent pèse autour de 25 kilos et donc pour le cacher, il va falloir donc creuser un trou, donc même un bon trou, et après il faut veiller sur ce talent. Sinon, si par malheur quelqu'un d'autre le retrouve, il risque de perdre aussi ce talent. Et comment on va faire avec son maître? Donc on pourrait comprendre quand même qu'il avait fait une certaine activité. Mais le terme qui est employé pour traduire paresseux signifie timoré. Quelqu'un qui n'ose pas. Donc ce que, à mon sens, le maître reproche ici à ce serviteur, c'est le fait de n'avoir pas développé le capital qui lui a été confié. Bien sûr, la paresse est condamnée par l'Écriture, et d'une certaine manière même par cet exemple, la paresse est condamnée. Mais ici, c'est le manque d'audace que le maître pointe davantage. Pour avoir de l'audace, pour prendre le risque de développer, il faut avoir certaines assurances, parce qu'en effet, il ne s'agit pas de sauter dans le vide, il ne s'agit pas de tenter le Seigneur, mais de bien mettre en œuvre les richesses reçues de son maître. L'une, je dirais même la plus grande assurance qu'un serviteur peut recevoir de son maître, c'est la confiance. C'est la confiance qui lui témoigne pour que le maître mette une certaine fortune entre les mains de ses serviteurs. Il faut qu'il ait une certaine, même une grande confiance dans ses serviteurs. Donc le serviteur a reçu toutes les garanties dont il avait besoin pour développer cette richesse, ce talent de son maître. Et s'il y a une attitude à condamner ici, certainement pas celle de maître, mais celle de serviteur qui n'a pas saisi la pensée, qui n'a pas bénéficié de la confiance de son maître, il n'a pas saisi la pensée de son maître pour entrer dans le projet de son maître. Que dirions-nous de nous ? Sommes-nous assez audacieux dans le développement des talents que le Seigneur nous a donnés, que le Seigneur nous a confiés, à vrai dire ? Mettons-nous assez à profit toutes ces journées, tout ce temps que le Seigneur nous donne, ou bien contentons-nous de les passer devant un écran sans aucune utilité ? Avons-nous assez de confiance en notre Maître pour aller plus loin que nous l'avions fait jusqu'à maintenant ? Ou bien voulons-nous toujours rester sur nos acquis, sur nos certitudes, dans notre cocon ? À nous, individuellement, mais aussi collectivement, en tant qu'Église, de nous examiner, de nous interroger pour faire le nécessaire. Car nous sommes encore en période d'attente. Le Maître n'est pas encore revenu. Il nous faut développer les richesses, les talents que Dieu nous a donnés en tant qu'Église. Il nous faut développer ces trésors que le Seigneur nous a laissés. Il nous faut lui faire confiance pour aller plus loin que ce que nous avons fait peut-être jusqu'à maintenant. Et cela sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de l'Église. Le maître de notre parabole reste juste et aimant jusqu'au bout, malgré l'attitude injuste et inutile du troisième serviteur. Le maître continue à chercher à développer ses richesses, ses talents, pour qu'un grand nombre de personnes soient bénéficiaires de ses richesses. Les personnes qui sont aptes à développer ces richesses se voient confier d'autres richesses pour qu'ils les développent davantage et qu'un grand nombre de personnes soient encore davantage au bénéfice de ces richesses. Les personnes incapables de développer ces richesses se voient ôter même le peu qu'elles ont parce que le Seigneur même, pour ce peu, le Seigneur ne veut pas le laisser perdre, inutile. Il veut utiliser aussi ce peu pour qu'il soit au bénéfice de la communauté, de l'Église, mais aussi de l'humanité. La parole de Jésus au verset 28 et 29 a fait râler beaucoup de personnes considérant que Jésus approuve l'accumulation des richesses et l'appauvrissement des pauvres. Mais en fait, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la pensée de Jésus exprimée dans ces deux derniers versets, dans les versets 28 et 29. Car le souci de Seigneur, c'est de voir ses bénédictions développées afin qu'un grand nombre de personnes soit au bénéfice. À nous, chrétiens, disciples de Christ, de Jésus, à nous de bien mettre en œuvre les dons du Seigneur dans notre vie, comme sa parole, comme ses grâces pour annoncer l'Évangile, notre temps pour prier les uns pour les autres, pour nos contemporains, notre monde, notre temps aussi pour venir en aide aux frères et sœurs. À nous de développer cela. Nous le faisons, mais nous pouvons encore aller plus loin, car nous ne sommes pas encore arrivés, et tant que le Maître n'est pas encore de retour, nous pouvons avancer. À ceux qui ne sont pas encore chrétiens, j'aimerais vous dire que le temps de retour du Maître risque d'être beaucoup plus court que nous le pensions. Le retour risque d'être beaucoup plus rapide que nous le pensions. Il y a une urgence à réfléchir à la vie que vous recevez chaque jour et chaque matin, à la santé, aux forces que vous avez, et de vous tirer les bonnes conclusions avant que ce soit trop tard. Car nous aurons tous, nous aurons à rendre compte de la manière dont nous avons géré cette vie que Dieu nous a donnée à tous. Nous aurons tous à rendre compte de la manière dont nous avons développé les richesses, les talents, la confiance, les dons que le Seigneur nous a accordés. Que le Seigneur nous aide et nous donne la sagesse, le discernement, pour que nous soyons dès à présent des serviteurs qui gèrent les talents, les dons, qui gèrent les richesses de Dieu d'une manière digne de notre Seigneur. Et que plusieurs personnes, comme c'est le souhait de notre Maître, soient au bénéfice de ces richesses, de ce développement et de cette audace pris par les uns et les autres, pris par son Église. Amen.